Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de Radio Courtoisie. Et quand je dis être à l'écoute, je ne parle pas dans le vide. Des chiffres d'audience remarquables sont sortis récemment. Figurez-vous qu'en Ile-de-France, à peine 1,5 point nous sépare d'Europe 1. Quel encouragement à persévérer, à poursuivre notre travail, à nous maintenir sur une ligne originale que certains caricaturent à tort. Hier encore, un ami me disait « Longtemps, j'ai écouté Radio Courtoisie comme on écoutait Radio Londres en 41 ou 42, clandestinement. » Cette époque est révolue, vraiment, merci beaucoup. Ah, au fait, le générique. Certains d'entre vous se disent sûrement « Mais je connais, ne savent plus vraiment pourquoi. » Eh bien, il s'agit de la musique du film « Les Aventuriers » de Robert Enrico avec Alain Delon et Ino Ventura. François Droubet l'a composé, son talent a embelli de nombreux films français, « Les grandes gueules au vieux fusil », avant qu'il ne perde la vie dans un accident de plongée à 35 ans à peine. Alors, à propos de cinéma, pourquoi cette émission, que je suis heureux de vous présenter depuis 6 mois, porte-t-elle ce nom un peu abscon, les neiges du Kilimandjaro? Voici pourquoi.
Le Kilimandjaro, que les neiges revêtent d'un blanc manteau, est un volcan haut de 5893 mètres. On prétend que c'est la plus haute montagne de l'Afrique. Sur le flanc ouest, près du sommet, se trouve la carcasse congelée et desséchée d'un léopard. Personne n'a su expliquer ce que le léopard cherchait à cette altitude.
Et voilà, cette phrase figure en exergue de la nouvelle d'Ernest Hemingway qui porte ce nom, comme le film qui en fut adapté avec Gregory Peck et Ava Gardner, dont nous avons entendu l'extrait. Qu'aller chercher ce léopard bien au-delà de son territoire? La quête de l'inaccessible aiguillonne les meilleurs, qu'ils soient léopards, chevaux pur sang, primates ou humains, s'élever, aller plus haut. Situs, alcius, fortius, c'est la devise des Jeux Olympiques. Alors, pas d'invité aujourd'hui pour s'asseoir dans notre studio, comme l'ont fait Arnaud Clarsfeld, Eric Nolot, Jean-Marie Perrier, Patrick Chauvel, Basile Lecoq, Frigide Barjot, Amaury de Hauteclocque, entre autres, depuis octobre. Ce que je vous propose aujourd'hui, et je remercie vraiment Pierre-Alexandre Bouclet et Richard de Cesse qui ont accepté l'idée, c'est une sorte d'exercice d'admiration. Je me suis demandé, au fond, ce que j'aimais vraiment, en termes de films, de musique, de livres, au point de vouloir vous le faire partager. Quel privilège, quelle chance, quel beau métier. Alors évidemment, la liste, en plus d'être très très subjective, par définition, est interminable. Il a fallu faire des choix arbitraires. Je crois pouvoir faire 10, 50 émissions comme celle-ci avec autant d'enthousiasme. J'espère qu'autant que moi, vous serez un voyageur émerveillé. Alors commençons par le personnage, pour moi, le plus touchant, le plus héroïque, le plus poétique, le plus désespéré, le plus français, notre théâtre Cyrano de Bergerac. Vous connaissez tous l'argument de la pièce, je ne vous fais pas l'affront de vous le rappeler. Le film de Jean-Paul Rapneau avec Gérard Depardieu est une réussite exemplaire, n'en déplaise aux fâcheux, et c'est de lui que provient cet extrait. Le comte de Guiche lui a proposé de devenir son poète officiel et payé pour l'être. Certains, nombreux, verraient cela comme une chance. Cyrano, bien sûr, et bien que totalement désargenté, voilà un affront et refuse avec véhémence, malgré l'insistance de son ami Lebret.
Enfin, tu conviendras.
Eh bien oui, c'est mon vice. Déplaire est mon plaisir, j'aime qu'on me haïsse.
Si tu laissais un peu ton âme, mousquetaire, la fortune et la gloire...
Mais que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant? Prendre un patron? Et comme un lierre obscur qui circonvient à un tronc et s'en fait un tuteur, en lui laissant l'écorce, grimper par ruse, au lieu de s'élever par force? Non, merci. Plaider, comme tous ils le font, des vers aux financiers, se changer en bouffon, dans l'espoir vil de voir, aux lèvres d'un ministre, naître un sourire enfin, qui ne soit pas sinistre. Non, merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui plus vite, à l'endroit des genoux, devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale. Non, merci. De trouver du talent comme Mazette, être terrorisé par de vagues casettes, et se dire sans cesse, oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure, François. Non, merci. Calculer. Avoir peur, être blême, aimer mieux faire une visite qu'un poème, rédiger des placés, se faire présenter. Non, merci. Non, merci. Non, merci.
Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre quand il vous plaît son feutre de travers pour un oui, pour un non, se battre ou faire un verre. Travailler sans souci de gloire ou de fortune à tel voyage auquel on pense. Dans la lune, triomphant par hasard, en garder le mérite, bref, dédaignant d'être le lierre parasite lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul. Ne pas monter bien haut, peut-être. Mais tout seul.
Fais tout haut l'orgueilleux et la mère. Mais tout bas, dis-moi tout simplement qu'elle ne t'aime pas.
Tais-toi.
Ah, le tais-toi final est un crève-cœur. Est-ce qu'on a fait beaucoup mieux que ça dans le théâtre français? Je ne suis pas sûr. À propos de Cyrano, vous pouvez d'ailleurs essayer de voir Edmond d'Alexis Michalik, qui est une pièce et un film qui raconte comment Rostand, dans l'urgence, écrivit ce chef-d'œuvre. Les Alexandrins, c'est quand même vraiment bien, non? La pièce, figurez-vous, en compte 1600. Un jour, Philippe Léotard, le comédien, a, je ne sais où, proclamé « Vive les Alexandrins, le capitaine fracasse et la cavalerie française ». Merci, ne serait-ce que pour ça. Un demi-siècle avant Cyrano, sous la plume d'Alexandre Dumas, c'est à cheval que surgit un autre inoubliable héros français, Charles de Bath de Castelmore, dit d'Artagnan. Les deux personnages ont bien des points communs. Tout d'abord, ils vivent sous le règne de Louis XIII. L'action des Trois Mousquetaires se déroule en 1625, celle de Cyrano en 1640. Ensuite, nos deux héros sont inspirés de personnages bien réels, aux vies très mouvementées. D'Artagnan fut vraiment un capitaine des mousquetaires à la belle carrière, désigné entre autres pour arrêter le surintendant Fouquet, dont la richesse offusqua le roi. Il mourut, hélas, au siège de Maastricht, bien avant qu'on y signe un sinistre traité, mais ne nous égarons pas. Savinien de Cyrano fut, lui, un érudit, un libertin et un auteur assez prolifique. On retient, par exemple, l'histoire comique des États et empires de la Lune. Mais Dumas et Rostand leur prêtèrent donc des aventures extravagantes, emballantes, qu'ils ne connurent Les Trois Mousquetaires. Quel hymne à l'amitié, au courage, à l'audace. Athos, le nostalgique désespéré. Aramis, le charmeur ambigu. Porthos, le bon vivant généreux, complète et entoure D'Artagnan, l'impétueux. Des millions de lecteurs dans des dizaines de langues ont avec eux tiré l'épée, affronté les gardes du cardinal, déjoué les ruses de l'espionne Milady, trinqué dans les tavernes, rossé les avares et ri des pleutres. Et en plus, de 20 ans après, et du Vicomte de Bragelonne, signé Dumas tous les deux, tout aussi exaltant que le premier volume, on dénombre bien des tentatives, souvent assez grotesques, de redonner vie aux mousquetaires. Une seule, à mes yeux, mérite l'attention, D'Artagnan amoureux, du hussard Roger Nimier en 1962, et qui s'achève par ces mots, pour moi inoubliables. D'Artagnan amoureux était conduit et amer, et s'adresse à son valet en ces mots. À cheval, Planchet, il n'y a que les routes pour calmer la vie. Le D'Artagnan de Dumas, le Cyrano de Rostand ont donc bien des points communs, on l'a vu, mais aussi une différence fondamentale. Là où Cyrano, amoureux transi de Roxane, qui préfère le fade mais beau Neuvillette, souffre toute sa vie et cache sa flamme, D'Artagnan ne dédaigne pas du tout les charmes des femmes. Même s'il est amoureux de Constance, sa logeuse, qui se détourne d'ailleurs sans scrupule de son mari mesquin pour le gascon bondissant, il embrasse des servantes et il succombe à Milady. Il y a beaucoup de versions filmées de ce chef-d'œuvre. Celle qui vient date de 1959, réalisée par Claude Barma pour la télévision et figurez-vous, en direct. Incroyable. Tiens, un petit jeu entre nous. Qui joue D'Artagnan en pleine séduction avec Milady l'Infernale, l'ancienne femme d'Athos? Écoutez.
Monsieur D'Artagnan, est-ce que vous ne cherchez pas à prendre du service à Paris?
Du service à Paris?
Sans doute avez-vous des amis.
J'en ai trois mousquetaires.
Mais vous ne pouvez pas entrer aux mousquetaires, c'est trop difficile. Est-ce que vous n'avez pas un peu d'ambition?
Ça se pourrait.
Est-ce qu'un service très brillant, très relevé, le service de son éminence, par exemple?
Ah, je ne peux pas, madame. Mes trois amis sont brouillés avec le cardinal et moi-même après
je
ce
comprends,
combat.
Je comprends,
oui. Oh, ce n'est pas que je dédaigne les services de son éminence, bien au contraire. J'ai trop d'admiration pour monsieur le cardinal. Mais je préférais la première conversation, Milady.
Monsieur D'Artagnan?
J'étais en train de vous dire que si je trouvais un peu d'indulgence, eh bien, je m'efforcerai d'être ni trop indiscret, ni trop timide.
Vous faites une déclaration à brûle-pourpoint. L'attaque est vive.
Eh bien, défendez-vous.
Vous êtes trop dangereux, monsieur le chevalier. Une garnison si vigoureusement sommée de se rendre n'a qu'une ressource.
Laquelle?
Celle de faire une sortie.
Une belle sortie. Depuis Méliès en 1903, il y a eu, figurez-vous, 70 adaptations ou presque filmées qui ont envahi les écrans, y compris une version mexicaine et même une égyptienne, attention, tournée en 1941, c'est-à-dire l'année où l'Africa Corps de Rommel bouscule les Anglais dans le désert d'Égypte. Il se trouve quelqu'un à Alexandrie pour tourner les Trois Mousquetaires. Je donnerais cher pour l'avoir, celle-là. Max Linder, Georges Marchal, Gene Kelly, Jean Marais, Gérard Barret, Michael York et François Civil récemment, entre autres, ont revêtu la belle casaque du mousquetaire gascon. Ah, au fait, le petit jeu, vous l'avez trouvé ou pas? C'était Jean-Paul Belmondo, eh oui, très peu connu à l'époque. Quelques mois plus tard, à peine, sortait À bout de souffle de Godard, qui faisait exploser les codes du cinéma et qui transformait Belmondo en une star instantanée. Heureux, ceux, pas très nombreux parmi vous, j'imagine, qui n'ont pas encore lu Les Trois Mousquetaires. En le faisant, ils vont pénétrer dans le monde du courage et de la gaieté, deux vertus qui ne font pas toujours bon ménage. La vérité historique est souvent bafouée, mais comme l'a dit Dumas, on peut violer l'histoire à condition de lui faire de beaux enfants. À lire et à relire toute sa vie, comme un bréviaire, je crois, de l'honneur et de la fougue, comme un antidote à la morosité et aux compromissions. Si l'envie vous prend un jour de vous promener dans le Paris de D'Artagnan, je propose le trajet suivant. Commencez par la rue Ticotone, dans le quartier Montorgueil, oui, c'est là que loge le jeune D'Artagnan, arrivé du Béarn sur un très mauvais cheval qui fait rire les Parisiens. Heureux hasard, parce que si son logeur, M. Bonacieux, incarne l'ennui le plus profond, sa femme Constance, en revanche, de l'avoir vue, tombe immédiatement dans les bras de notre ami. Ensuite, direction le Louvre, où travaille justement Constance, lingère de la reine. Un peu d'imagination devrait vous suffire en regardant les façades. Les couloirs sans fin, les intrigues, le froissement des robes, les portes dérobées côtoient le faste dans ce royal palais. En sortant du Louvre, jetez un œil à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, qui avait sonné le tocsin pour la Saint-Barthélemy, et où plus tard se mariera Molière. Traversez la Seine par le Pont Neuf, très semblable à ce qu'il était lorsque D'Artagnan l'empruntait pour aller rendre visite à son ami Athos, rue Férou, derrière Saint-Sulpice. Je ne sais plus, pardonnez-moi, j'ai un peu honte où logeait Porthos, mais Dumas le dit, cherchez vous-même dans ces pages trépidantes. Quant à Aramis, l'incorrigible séducteur mondain, il partageait ses nuits entre la duchesse de Chevreuse, d'autres élégantes, ce qui ne l'empêchera pas, le coquin, de devenir abbé d'Herblay. Il y a actuellement un incroyable engouement autour de l'autre grand roman de Dumas, Monte Cristo. Il est beaucoup plus sombre, moins solaire que Les Trois Mousquetaires, mais l'engouement est révélateur. Au fait, saviez-vous à ce propos qu'à certains égards, l'histoire de Monte Cristo fait écho à celle de la famille d'Alexandre ? Son grand-père, le marquis Alexandre de la Paillétrie, était parti aux Antilles en 1738. Il y mena une vie de libertin, il fit des affaires catastrophiques et progressivement tomba dans l'oubli. Ses frères le croyaient mort, reprirent donc le château, le titre. Des décennies s'écoulèrent, on avait complètement oublié l'aîné. Et puis, il surgit du néant en 1775, 37 ans plus tard, comme par exemple le héros du magnifique Maître de Ballantrae de Stevenson, et donc comme Edmond Dantès, alias Comte de Monte Cristo, après 14 ans dans les geôles du château d'If. On imagine la stupeur familiale. Le revenant obtint gain de cause et reprit ses biens. Alexandre, figurez-vous qu'il avait eu aux Antilles des enfants avec une esclave noire, Marie Dumas, qu'il abandonna avec leurs enfants. Pire même, il les vendit comme esclaves. Ça semble monstrueux de nos jours, ça n'émouvait guère à l'époque. Plus tard, il racheta quand même un de ses fils, Thomas Alexandre, et lui fit donner l'éducation d'un jeune gentilhomme. Il s'engagea dans l'armée royale et deviendra général sous la République. Le premier homme de couleur à un tel rang dans l'histoire de France. Très symboliquement, il choisit de rendre hommage à sa mère en portant son nom, Dumas. Son fils Alexandre, notre cher écrivain, était donc un carteron, selon l'expression en usage. Certains de ses contemporains ne se privaient pas de lui rappeler. Un jour notamment, quelqu'un lui dit dans un dîner « Mais vous devez bien les connaître, vous les nègres !» auquel Dumas rétorque, « Mon père était en effet un mulâtre. Mon grand-père était un nègre. Mon arrière-grand-père était un singe. Vous voyez, monsieur, que ma famille commence ou la vôtre finit. » C'est quand même pas mal. Si Dumas, toute sa vie, a écrit, toute sa vie ou presque, en s'installant dans la gloire, d'autres sont beaucoup moins constants. Ainsi, Alfred de Musset, dont les grandes œuvres, celles qui ont franchi les grilles redoutables de la postérité, furent écrites avant qu'il n'ait 30 ans. Lorenzaccio, Les Confessions d'un enfant du siècle, On ne baigne pas avec l'amour. On ne peut évoquer Musset sans penser à George Sand. Leur liaison orageuse, tourmentée, exaltée, dura moins de 2 ans. Mais près de 100 ans plus tard, nous en parlons encore. Leur correspondance, elle fut parfois audacieuse et cryptée. La décence m'empêche de vous citer des exemples, mais cherchez sur Internet, vous en trouvez de très explicites. Beaucoup moins licencieux en revanche, On ne badine pas avec l'amour reprend pourtant les éléments de la liaison des deux écrivains et jusqu'à certains mots tirés de leurs lettres. Oui, on ne badine pas dans cette pièce, vraiment pas. On s'aime sans se l'avouer, on se ment par orgueil et la tirade finale, celle de Perdican déçu de la froideur pourtant feinte de Camille et d'un romantisme échevelé. Elle compte, je crois, parmi les grands moments du théâtre français du XIXe siècle.
Adieu Camille. Retourne à ton couvent. Lorsqu'on te fera de ces récits hideux qui t'ont empoisonné, réponds ce que je vais te dire. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux ou lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuse et dépravée. Le monde n'est qu'un égout sans fond, où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime. C'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits, si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé, souvent malheureux. Mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière. Et on se dit, j'ai souffert souvent. Je me suis trompé quelquefois. Mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu. Et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui.
Merci Perdigan, merci Musset. C'est Francis Huster qui jouait ici en 79. Avant de clore ce chapitre KPP en quelque sorte, un détail amusant. Dumas et Hugo, les deux colosses de la littérature française de l'époque, sont tous deux fils de deux généraux, de la Révolution pour l'un, de l'Empire pour l'autre. Et ils sont nés, rappelez-vous, la même année. Ce siècle avait deux ans déjà, Napoléon, Pérès ou Bonaparte, oui, 1802. Et George Sand, de son vrai nom Aurore Dupin de Franqueuil, elle était l'arrière-petite-fille du maréchal de Saxe et la fille d'un officier de l'armée napoléonienne. La chose militaire, à l'époque, n'était pas si éloignée de la littérature. Songeons à Château de la Clos, l'officier spécialiste des fortifications sous la monarchie, la Révolution et l'Empire, et qui écrivit Les Liaisons dangereuses, l'histoire du cynique Valmont qui prenait d'assaut les citadelles féminines. Et bien sûr, songeons aussi à Stendhal, officier d'intendance de la Grande Armée dont le physique banal, assez lourdeau même, cachait une âme délicate et un cœur ardent. Pour clore donc notre chapitre, un peu de musique vous sied-il ? C'est celle du Cyrano de Rapneau, composée par Jean-Claude Petit, César de la meilleure musique et victoire de la musique en 1991. Les éperons brillent, les rapières ne demandent qu'à sortir des fourreaux, les dames inspirent des sentiments fiévreux aux soldats empanachés. La bataille et l'amour ne sont pas loin. Vous êtes sur Radio Courtoisie, vous écoutez les neiges du Kilimandjaro. Enfin, écoutez les neiges, ça ne veut rien dire. Nous gravissons ensemble les sommets du Kilimandjaro qui amènent vers les neiges éternelles. Émission spéciale, sans invité, j'ai la grande chance de faire aujourd'hui une sorte d'exercice d'admiration en vous faisant écouter des musiques, des textes qui m'émeuvent ou me font sourire. Avez-vous déjà essayé cet exercice? Dresser la liste des livres, disques, films, peintures, que sais-je, préférés? Je l'ai fait à grand-peine et c'est une partie de cette liste que je vous propose donc aujourd'hui. Là, j'avoue que je jubile à l'avance. Les livres rouges en cuir, les couvertures dorées et les mots étincelants. Les voyages extraordinaires de Jules Verne. 62 romans où on se déplace en ballon, en sous-marin, en steamer, en calèche, à cheval, en train, en fusée. 62 romans où on explore le fond des océans, les îles du Pacifique, les montagnes des Carpates, la savane africaine, la banquise, le centre de la Terre, la Lune. 62 romans où on sauve des indiennes du bûcher, où on combat des calmars géants, où on commande un navire à 15 ans, où on prend 2 ans de vacances, où on bâtit des villes idéales, où on fait le tour du monde en 80 jours. Enfin, 79 en fait, vous vous souvenez. 62 romans dont les héros se nomment Ned Land, le harponneur, Phileas Fogg, le gentleman globetrotter, Hector Sevalac, le capitaine qui chevauche une comète, Michel Ardan, qui fonce vers la lune, Matthias Sandorf, l'Hongrois qui complote pour libérer son pays du joug autrichien, et tant d'autres. Jusqu'à Nemo, le sous-marinier, ambigu, rongé par le désir de vengeance. Il a bien fallu en choisir un à vous faire entendre. Ce sera Michel Strogoff. Ce capitaine dans les courriers du tsar doit porter un message d'Alexandre II, le tsar, au grand-duc, son frère, enfermé dans Irkoutsk en Sibérie orientale et bientôt assiégé par les ordres tatars. Les ours, les loups, les tempêtes, les traîtres, les inondations et, évidemment, les tatars eux-mêmes compliquent sa mission et rendent ce voyage de 5500 km, en gros Paris-New York, encore plus périlleux, à la grande joie, évidemment, des lecteurs douillettement installés dans leur canapé. Contrairement au désert des Tartares de Dino Buzzati, dont la menace reste théorique, ne prend jamais forme et obsède les défenseurs, je m'appelle Zangra, je suis lieutenant au fort de Bellonzio qui domine la plaine, d'où l'ennemi viendra, qui me fera héros, a chanté Jacques Brel, inspiré par son récit métaphysique. Donc, contrairement à ceux-là, les Tatars de Jules Verne sont partout. Ils ont même capturé Michel Strogoff sans le savoir, parmi de nombreux civils, mais aussi sa mère. Et elle, ils l'ont identifié et ils veulent la faire parler, les ignobles brutes.
Strogoff.
Oui.
Tu ignores que ton fils Michel Strogoff, courrier du tsar, a passé à Omsk.
Je l'ignore.
Et l'homme que tu avais cru reconnaître pour ton fils au relais de poste, ce n'était pas lui, ce n'était pas ton fils.
Ce n'était pas mon fils.
Et depuis, tu ne l'as pas vu au milieu de ces prisonniers.
Non.
Et si on te le montrait, le reconnaîtrais-tu?
Non.
Écoute. Je le sais, ton fils est ici et tu vas immédiatement le désigner.
Non !
Le Knout ! Le Knout pour cette vieille coquine et jusqu'à ce qu'elle meure ! Allez !
Lâche ce fouet, Raymond !
Michel Strogoff.
Lui-même, et qui va te rendre coup pour coup, Ivan Ogareff. Tu porteras désormais au visage la marque des traîtres.
Emparez-vous de cet homme, il est réservé à la justice de l'émir, qu'on le fouille ! Et qu'on le conduise à la tente de Féofarcan.
Voilà, bien fait pour toi, Ivan Ogareff. Alors ça, c'est amusant, ce n'est pas l'extrait d'un film. Il y a eu plusieurs versions télévisées, un film un peu ridicule avec Kurt Jorgens. Ça, c'est un livre lu, un disque avec des interprètes. J'ai découvert, je l'ai écouté enfant, et j'ai découvert maintenant, je ne me rendais pas compte à l'époque, que Michel Strogoff, c'est Jean de Sailly, et qu'il y a dans la distribution le jeune Philippe Noiret, débutant aux presses, qui joue Alcide Jolivet, le journaliste français. Oui, la suite va être difficile pour Strogoff. Les sbires de Féofarcan vont le rendre aveugle en brûlant ses yeux au fer rouge. À vous de lire le reste. Jules Verne, qui lui-même ne voyagera jamais, ou si peu, nous entraîne comme personne d'autre dans cet univers absolument fantastique. Bien sûr, il est un symbole de son époque, la deuxième moitié du XIXe siècle, celle de la conquête coloniale, celle de la révolution industrielle. Cette époque cultive le patriotisme, mais elle croit au progrès sans fin, au prodige des inventions qui changent la face du monde, à la mission des Européens de civiliser le reste de l'univers. Tout cela est très peu politiquement correct, je suis presque étonné qu'il ne soit pas encore trouvé des censeurs pour exiger qu'on modifie ses livres comme on l'a fait avec Roald Dahl, avec Agatha Christie, avec Hergé et d'autres. Est-il démodé pour autant? Eh bien non. Encore aujourd'hui, le saviez-vous, il est l'auteur français le plus traduit dans le monde. Plus jeune, de près de 40 ans, l'auteur majeur de cette période en Grande-Bretagne, c'est Rudyard Kipling. En 1894, il reste quelques romans encore à naître sous la plume de Jules Verne, quand Kipling publie son œuvre majeure, Le Livre de la Jungle. Alors, vous tous, vous connaissez Mowgli, Shere Khan, Bagheera, Baloo, souvent d'ailleurs plus grâce aux dessins animés de Walt Disney qu'aux livres de Kipling. Évidemment, méfions-nous des simplifications. Mais alors que Verne a célébré l'exploration, l'aventure, un certain universalisme, même si évidemment l'homme européen est au centre de son œuvre, Kipling est resté beaucoup plus centré sur le monde britannique. Certains le perçoivent comme le chantre absolu de l'impérialisme victorien. D'autres estiment qu'il le critique, subtilement. Toujours est-il que certains de ses textes sont restés dans la mémoire collective. Gunga Din, Histoire comme ça, Kim, et le célèbre poème If, qui s'achève par « Tu seras un homme, mon fils », dont le meilleur vers, à mes yeux, demeure « Si tu peux rencontrer le triomphe après la défaite et recevoir ces deux imposteurs d'un même affront. » J'avoue n'avoir jamais lu « L'homme qui voulut être roi ». Mais l'adaptation au cinéma par le génial John Huston, Moby Dick, Le Trésor de la Sierra Madre, Les gens de Dublin, Kay Largo et tant d'autres, est un de mes films de chevet, si j'ose dire. De quoi s'agit-il? Deux soudards britanniques, joués par Sean Connery et Michael Caine au sommet de leur forme, sont des escrocs flamboyants, des aventuriers extravagants, ils ont un projet fou dans l'Inde que les Anglais nomment alors le Raj. Le plus inouï étant qu'ils réussissent, avant que le destin ne retourne son glaive contre eux. Il faut vraiment, vraiment, je vous assure, voir ce film. Tout est réuni. Les deux Lascars sont à la fois vils et nobles, profiteurs et prodigues, animés par une confiance inébranlable et une folie incontrôlable. Ils sont les artisans de leur succès et les responsables de leur tragédie finale. Les paysages, la splendeur des décors, la finesse des comédiens, la démesure de l'entreprise, tout est extraordinaire. Dans cette scène, au début du film, ils viennent expliquer leur idée démente avec un aplomb absolu au journaliste Rudyard Kipling, médusé.
Mon Dieu, encore vous ? Qu'est-ce que vous allez encore me demander ?
Nous venons solliciter une faveur.
Encore une faveur ?
Calmez-vous, frère Kipling. Nous n'avons jamais abusé de la confiance d'un membre de la confrérie.
Nous ne voulons pas d'argent, rien qu'un peu de votre temps. Consultez un ou deux livres, une ou deux cartes éventuellement. Bien sûr, si on nous offre un verre, ce n'est pas de refus, mais si on ne nous l'offre pas, on ne fera pas d'histoire.
Pitchy n'est pas ivre, et moi non plus. C'est important, croyez-le, vu la circonstance. Alors, nous allons vous prendre un cigare chacun, et vous nous regarderez pendant qu'on les allume. Et maintenant, permettez-moi de vous présenter frère Pitchy Conrad, c'est lui, et frère Daniel Dravot, c'est moi. J'en dirai le moins possible sur notre profession. Nous avons plus d'un métier à notre actif. Nous avons parcouru l'Inde, nous connaissons ses villes, ses jungles, ses cols de montagne et ses prisons. Et nous avons décidé que l'Inde, c'est beaucoup trop petit pour des gens comme nous.
Oui, c'est ce que le gouverneur a semblé sous-entendre.
En conséquence, nous allons partir vers un autre pays. Ah. Où l'on peut sans entrave atteindre ses ambitions légitimes. Nous ne sommes pas rien, monsieur. Alors nous allons partir et devenir roi. Roi du Kafiristan.
Oh, du Kafiristan.
On dit qu'ils adorent 32 idoles là-bas. Nous deviendrons leurs 33 et 34e.
Dans ce pays, les tribus se font une guerre permanente. C'est donc une terre d'avenir pour des hommes de notre acabit, qui savent faire d'un homme un soldat et gagner des batailles.
Nous irons dans ce pays, et quand nous trouverons un chef, nous lui dirons « Pouvons-nous vaincre tes ennemis ?» Bien sûr, dira-t-il. Allez les vaincre. Nous combattrons pour lui, nous le ferons roi, puis nous le renverserons. Nous nous saisirons de son trône et de tout le butin qu'on pourra ramasser.
Qu'est-ce que vous en pensez, hein?
J'en pense que vous avez perdu la tête. Sachez d'abord que la seule route pour y parvenir passe par l'Afghanistan. Le Kafiristan? Non, non, non. Deux blancs sans escorte y seraient mis en pièces, à moins de 10 kilomètres au-delà de la base de Kaïbar. Supposez qu'on réussisse à franchir la frontière. Non, supposez. Et qu'on parvienne à traverser les plaines afghanes. Et après? Là, vous tomberez sur le Hindou Kush. Une mer de glace truffée de pics et de glaciers. Une expédition géographique y est partie faire des relevés il y a quelques années et s'est volatilisée en route. Aucun homme blanc n'a jamais pu y aller et en revenir depuis Alexandre.
Quel Alexandre?
Alexandre le Grand, roi de Grèce, environ 300 ans avant Jésus-Christ.
Eh bien, si un Grec a réussi, on réussira, il n'y a pas de raison.
Absolument.
Voilà, tout est là. Donc, Michael Caine, Sean Connery qui interprètent ces deux fous furieux, qui sont en plus des ignorants complets, ils ne savent même pas qui est Alexandre le Grand. Néanmoins, dans ce parcours fou qui arrive à destination, ils s'apercevront que l'un d'entre eux est pris pour un descendant d'Alexandre, et on l'appelle Sikander, Sikander, ce qui, dans cette langue du Kafiristan imaginaire, veut dire Alexandre. L'homme qui voulut être roi de Johnston, je vous le recommande une fois de plus, vraiment, regardez-le. C'est l'histoire de ces fous, magnifiques, étincelants, inconscients, des rêveurs en marche, qui refusent leur destin, celui qui leur est promis, celui de simples sous-officiers retraités, voués à une vie étriquée, avec de simples souvenirs. Ce sont des tricheurs, mais ce sont des braves jusqu'à l'inconscience. Leur loyauté l'un à l'autre jusqu'au bout leur rend une noblesse que leur capacité, leur cupidité leur avait ôtée. Carnahan et Dravot, c'est l'enfance comme étendard. Quel enfant n'a pas rêvé de conquête, de tribus à affronter, de périls à vaincre, d'aventures échevelées et lyriques? Eux l'ont fait, quel que soit le prix à payer. Voilà, Carnahan et Dravot, l'homme qui voulut être roi. Arrive un moment délicat de l'émission, comment parler sans emphase de son auteur préféré? Enfin, l'un des deux, le deuxième, nous parlons un peu plus tard de lui. Le premier, c'est Ernest Hemingway. Qui ne connaît pas sa légende de macho, chasseur, buveur, boxeur, bourlingueur, noctambule, aficionado de corrida, bravache et auteur de génie? Pardonnez-moi de parler de moi, mais j'ai eu il y a pas mal de temps le plaisir de réaliser pour Arte une série de films sur les écrivains aventuriers comme London, Sandra, Kerouac, Romain Gary, Lotti, Laurence d'Arabie, etc., etc. Avez-vous ce sentiment, quand vous connaissez toute l'œuvre et la vie d'un écrivain que vous adorez, que vous êtes le seul dans ce cas, qui vous appartient un petit peu? Quand nous sommes allés tourner à Cuba, à Key West, chez lui, chez Ernest, bien après sa mort, pénétrant dans ses maisons, fréquentant ses bars de prédilection, ce sentiment d'intimité a encore grandi, une expérience intense. J'ai rencontré ses amis de Cuba, qui me racontèrent tant d'histoires incroyables sur lui. Oui, c'était un vantard, parfois menteur, mais son courage était réel. Je me souviens de Philippe Solers qui m'avait dit « Hemingway n'était pas le héros qu'il proclamait être, non, mais il portait sur ses épaules un fardeau d'angoisse qui eût écrasé tout homme moins grand que lui. » J'ai vu, de mes yeux, un télégramme qu'il avait envoyé à un ami qui me l'a montré après un double crash aérien en Afrique à l'issue duquel il avait été annoncé comme mort. Télégramme disant « Il paraît que je suis mort, stop, je suis au paradis, stop, le whisky est excellent. » J'ai rencontré aussi le marin cubain qui manœuvrait le bateau d'Hemingway. Il m'a raconté les sorties démentielles dans le golfe du Mexique. Hemingway et l'équipage armés de mitraillettes et de grenades rêvant de voir un sous-marin allemand faire surface et de s'en emparer. Au-delà de ses prouesses de matamor, il reste un écrivain extraordinaire, économe d'adjectifs, mais peignant aussi bien les scènes d'action de la guerre d'Espagne que les fêtards de Montparnasse dans les années 20, les chasses au gros gibier en Afrique ou les émois amoureux, la fraîcheur des matins où on remonte son col avant de descendre aux rivières en canoë, la clameur de la foule dans les arènes de Madrid, la certitude virile et la peur de l'échec. Mon livre favori, Le soleil se lève aussi. Quatre membres désillusionnés de la génération perdue, comme on en nommait à l'époque, circulent de Paris à Pampelune. À la surface du livre, on voit ce portrait de mondain qui festoie. En profondeur, le désespoir amoureux d'un héros rendu impuissant par une blessure de guerre et qui voit la femme qu'il aime passer de bras en bras, elle aussi désespérée et s'oubliant dans des étreintes avec un torero, un comte grivois, un homme d'affaires se mariant deux fois, volage, éclatante et amère. Un film assez médiocre en a été adapté. Malgré un casting incroyable, Tyrone Power, Earl Flynn dans un rôle d'ivrogne sarcastique loin du héros emballant qu'il avait incarné, et la merveilleuse Ava Gardner, côté français, Juliette Gréco et Dalio. Un film moyen, avouons-le. Mais voici quand même un extrait. C'est la fin du film. Les deux héros, incapables d'être heureux ensemble, ne pouvant pas vraiment renoncer l'un à l'autre, se font les ultimes confessions. Leur avenir reste incertain.
Tu es bien certaine que rien ne te manquera de ce que tu abandonnes ?
Non. Non, je n'ai rien abandonné qui me manquera vraiment. Il faut toujours payer tout ce qu'on fait, n'est-ce pas?
Il me semble que tu as déjà dit la même chose il n'y a pas tellement longtemps.
C'est vrai. C'est fini maintenant, n'en parlons plus, n'en parlons plus jamais, plus jamais. Est-ce que tu as une cigarette, Jack? Tu sais, il était garçon de café à Gibraltar. Il voulait m'épouser pour finir.
Peut-être pensait-il devenir Lord Ashley?
Non, il voulait vraiment m'épouser. Il disait qu'ainsi je ne l'abandonnerais pas.
Beaucoup d'autres ont eu la même idée avant lui.
Ne sois pas méchante, Jack. Écoute, ne parlons vraiment plus jamais de tout ça.
Je ne demande pas mieux.
Tu sais, Jack, ça fait du bien de recommencer à se conduire décemment. C'est peut-être ce qui remplace Dieu en nous.
Beaucoup de gens ont Dieu au fond du cœur.
Oui, je sais. Je n'ai jamais pu bien m'entendre avec lui.
Peut-être n'as-tu pas vraiment essayé.
Peut-être pas. Ce qui est affreux, c'est que tout aurait pu être aussi simple. Parce que tu es le seul que j'ai jamais aimé.
Bon. Et que faisons-nous maintenant?
Je n'en sais rien. Oh, chérie. Il doit y avoir une solution pour nous quelque part.
I'm sure there is.
Thank you. génération passe, une autre génération lui succède. Mais la terre demeure éternellement. Le soleil se lève aussi.
Oui, pendant longtemps, je n'avais pas vraiment compris ce titre, avant de réaliser qu'il provenait de l'Ecclésiaste et qu'il nous montre à la fois la futilité de nos existences et la certitude consolatrice que la vie reprend sans cesse. D'autres livres d'Hemingway, après « Ce soleil se lève aussi », cette adaptation assez médiocre, j'avoue, d'Henry King, je vous conseille « Island in the Streams »,« Île à la dérive », qui raconte la vie d'Hemingway, assez peu romancée, indirectement, avec ses enfants, ses fils adolescents dans les îles autour de Cuba. Évidemment, pour qui sonne le glas, chacun le connaît. Paris est une fête, la guerre d'Espagne. Paris est une fête, dans les années 20, publié post-mortem. Et puis, peut-être, Le vieil homme et la mer, le plus connu, celui qui lui a valu le prix Nobel. À mon avis, pas le plus intéressant, mais pourquoi pas. Il existe des images d'Hemingway qu'on trouve sur Internet, assez peu d'interviews, malheureusement. La seule que j'ai vue récemment est un peu navrante, car il était en forme physique assez médiocre. Il avait une sorte d'AVC. On le voit parler, il fait précocement vieillir, à peine 60 ans, c'était un colosse, et là, il semble titubant, il buvait beaucoup. Vous connaissez sa fin, supprimé par un feu, suicidé, comme son père, comme beaucoup de membres de sa famille. Un destin un peu tragique, il a 60 ans à peine, on dirait un vieillard. Mais l'ensemble de son œuvre, l'ensemble de sa création, mérite qu'on se détourne un instant de la vie quotidienne pour s'y plonger. Ernest Hemingway, les nouvelles aussi sont bien. Il n'y a rien à jeter chez lui. Rappel du principe de l'émission, au fait, si vous débarquez maintenant, ce qui arrive, vous n'êtes pas obligé d'être scotché devant le poste tout le temps. Aujourd'hui, les neiges du Kilimandjaro, un peu particulières, pas d'invités. Les invités sont des auteurs, des artistes, des gens de cinéma que je ne connais pas, qui sont morts pour la plupart, mais qui m'ont impressionné, des gens que j'aime, et c'est un exercice d'admiration. Le lien entre cette séquence Hemingway et celle qui vient, le lien est magnifique, c'est Ava Gardner. J'exagère ? Pas du tout. Elle a été surnommée le plus bel animal du monde, ce qui l'énervait d'ailleurs passablement. Même si elle admettait quand même qu'au cinéma, c'est sa propre formule, elle était capable de mettre le feu à la planète avec un beau décolleté adossé à un piano avec une robe moulante. Amie d'Ernest Hemingway, elle a tourné dans 3 films tirés de son œuvre. Le soleil se lève aussi donc, Les Tueurs avec Lancaster et bien sûr Les Neiges du Kilimandjaro, le titre de l'émission. Il y a d'ailleurs des images où on voit Hemingway et Ava Gardner tous les deux riant comme des fous, défiant des vachettes dans les arènes. Quelques grands films aussi à son palmarès, comme Mogambo en Afrique avec la plus fade Grace Kelly et avec Clark Gable, ou bien La Comtesse au pied de Mankiewicz. C'est quand même drôle d'imaginer que cette déesse a mis du temps pour s'imposer à Hollywood. Par la faute de son accent sudiste, paraît-il, a coupé au couteau. Dans sa vie amoureuse, plus qu'agitée, comme celle de Lady Brett Ashley, son personnage du soleil se lève aussi, il y a le torero Dominguin, l'acteur Mickey Rooney, le musicien Artie Shaw, tant d'autres. L'homme qui compta le plus fut sans doute Sinatra, la star absolue de l'époque, qui divorça pour elle, l'épousa, mais leur rapport volcanique et les avortements qu'elle s'infligea ruinèrent ce mariage. À propos de Sinatra d'ailleurs, ces quelques mots de Bruce Springsteen. La voix de Frank respirait la vie, le mauvais genre, la beauté, une triste expérience de la marche du monde. Frank, tu as été notre voix, celle des poètes du New Jersey, des prolos vaincus, tes frères.
Fly me to the moon. Let me play up there with those stars. Let me see what life is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song, let me swing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Thank you. song, let me sing forevermore, because you are all I worship, all I long for and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, I love.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Fly Me to the Moon, on vient d'écouter Frank Sinatra. Alors oui, c'est vrai, il a été l'ami de mafieux. Oui, il symbolise un certain machisme. Mais 150 millions de disques vendus, une carrière de plus de 50 ans et un surnom simple et explicite, The Voice. Bien avant l'émission du même nom, The Voice aux États-Unis, il n'y en a qu'un, c'est lui. C'est ce qui compte, non? Ami très sulfureux des Kennedy, qui l'ont écarté quand même de leur cercle du fait de ses relations avec la pègre, ce qui l'a rendu triste et assez amer. Il s'est impliqué aussi assez longtemps dans la vie politique. Il a été démocrate, donc soutien des Kennedy, puis il a basculé chez les Républicains pour Ronald Reagan. N'oublions pas que Frank Sinatra, Frankie, fut un excellent acteur, notamment dans Tant qu'il y aura des hommes. Quant au Rat Pack, vous connaissez le Rat Pack, un trio de crapules sympathiques qu'ils font avec Dean Martin, Sammy Davis Jr., renforcé parfois par d'autres. Il incarnait absolument la décontraction, l'humour, l'improvisation scénique, l'autodérision. Il a laissé une trace joyeuse, légère, ce qui n'est pas si mal dans l'existence. On peut les écouter, je vous assure. Essayez les disques du Rat Pack, ça se trouve sur Internet. Si vous aimez acheter des CD, on peut le faire aussi. Le Rat Pack, retenez ça. Une petite histoire sur Sinatra, c'est lui-même qui la racontait. Il raconte qu'un jour, alors qu'il est une énorme star, il est dans un bar, un inconnu vient le voir et lui dit « Écoutez, monsieur Sinatra, je suis embêté, j'ai ma petite amie qui arrive et si vous avez la gentillesse de venir me voir, je m'appelle Steve, et de me dire « Bonjour Steve », ça me donnerait à ses yeux un prestige extraordinaire. Est-ce que vous acceptez de faire ça ?»« Oui, d'accord, dit Sinatra. » Il boit un verre, parle avec les barman, il se passe un quart d'heure, la jeune fille arrive qui est avec son prétendant, le fameux Steve. Et Sinatra tient parole, il n'oublie pas. Il se dirige vers la table et il s'approche du couple et il dit « Alors Steve, ça va ?» Et l'autre lui répond « Mais enfin Franck, tu vois pas que je suis occupé ?» C'est vrai, c'est Sinatra qui l'a raconté. Allez, un petit saut dans le temps. Je vais vous parler d'un réalisateur absolument hors norme, Ridley Scott. Sa filmographie inouïe commence par Les Duellistes. Vous vous souvenez de ça? L'histoire adaptée de Joseph Conrad, deux officiers de l'armée napoléonienne qui s'affrontent dans un duel sans fin pendant des années pour une raison futile et assez mystérieuse. Suivront Alien, Blade Runner, Thelma et Louise, La Chute du Faucon Noir, peut-être le meilleur film de guerre de tous les temps à mon avis, tant d'autres grands moments de cinéma. J'ai voulu quand même mettre l'accent sur Gladiator, qui a renouvelé en 2000 le genre désuet et un peu ridicule du péplum. 5 Oscars ont récompensé l'histoire du général fidèle à Marc Aurèle, trahi par le fils de l'empereur, Commode, dont Ridley Scott, suivant sans le savoir les conseils de Dumas, invente complètement qu'il a tué son père. Maximus, le héros, suspecte quelque chose. Commode décide de le faire tuer. Maximus s'en sort, devient gladiateur et se venge. Musique épique de Hans Zimmer, scène d'action gigantesque, un vrai grand spectacle à la Ben Hur, la référence en la matière jusque-là. Cet extrait se situe aux marches germaniques de l'Empire romain. C'est le début du film. Maximus commande les légions qui affrontent les barbares chevelus et vociférants. Face à sa cavalerie, le général tient un discours galvanisateur qui donne la chair de poule. C'est de la fiction, bien sûr, mais ça fonctionne. Pourquoi ces petites musiques? Alors, il faut évidemment avoir un certain âge pour se souvenir de la séquence du téléspectateur. Le principe, c'était celui qu'on adapte aujourd'hui, à savoir des extraits d'un film présenté par une speakerine en quelques secondes d'introduction. Nous retrouvons Jean Marais au moment où, et voici qu'Alain Delon a dit que c'était la séquence du spectateur. On refait la même chose pour s'amuser aujourd'hui avec donc un extrait de Gladiator.
Patrice! Semaine, je moissonnerai mes terres. Imaginez où vous voudriez être. Et vous y serez. Tenez la ligne. Restez avec moi. Si vous vous retrouvez tout seul, chevauchant dans de verts pâturages avec le soleil sur le visage, n'en soyez pas troublés. car vous êtes aux Champs-Élysées et vous êtes déjà mort. Ouais. Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité.
Gladiator, donc, pas mal quand même. Dans la remarquable filmographie de Ridley Scott, un couac sévère, même à mes yeux, son Napoléon, qui veut tout dire et ne dit absolument rien, qui présente Napoléon comme totalement dépendant des étreintes que lui accorde ou lui refuse Joséphine. Quand tout va bien, il est épanoui et c'est la paix. Quand elle refuse, il y a un irrésistible besoin d'envahir l'Europe. C'est quand même un peu pauvre, je trouve. Je ne comprends pas comment un homme de ce quasi-génie a commis une erreur pareille. Mais glissons. Pour faire pendant, d'ailleurs, au discours de fiction de Maximus, permettez-moi quelques mots de celui bien réel lorsque Napoléon débarque à Golfe Juan avant l'extraordinaire épopée des 100 jours. Les 100 jours, ça mériterait bien une émission en soi, non ? Soldats, venez vous ranger sous les drapeaux de votre chef. Son existence ne se compose que de la vôtre. Son intérêt, son honneur et sa gloire ne sont que vos intérêts, votre honneur et votre gloire. La victoire marchera au pas de charge. L'aigle, avec les couleurs nationales, volera de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame. Quand même, quel souffle, non ? Hélas, tout ça s'achèvera tragiquement dans la boue de Waterloo, malgré les charges folles de Ney cherchant la mort, malgré la bravoure de la vieille garde. Ça sera la fin de l'Empire. J'ai donc la chance aujourd'hui de vous parler de mes héros, qu'ils soient écrivains, cinéastes, musiciens, qu'ils soient de fiction ou de chair et d'os. Dans les premiers rangs figure le prodigieux Winston Churchill. Sans lui, sans sa détermination absolue, son refus des concessions, sa vision de l'avenir, tout aurait été différent. Un Chamberlain aurait négocié avec Hitler et qui sait, les nazis auraient pu régner sur l'Europe pendant des décennies. Les soviétiques l'ont bien fait, après tout, sur l'est du continent, pendant 70 ans et plus. Churchill, l'auteur de cette célèbre formule sur les pilotes de la RAF et leur résistance héroïque durant la bataille d'Angleterre, « Never was so much owed by so many to so few ». Jamais dans l'histoire, autant de gens n'ont dû autant à si peu. Churchill donc a mérité que cette formule lui soit consacrée. Sans lui, pas de général de Gaulle. Malgré leurs différences, donc pas de France s'asseyant au banquet des vainqueurs. Il fut cynique, c'est vrai, il fut prêt à tout, mais sa fermeté a changé le monde. De combien de personnes peut-on dire ça dans l'histoire ? On peut le dire de Winston Churchill. Et son verbe puissant, sentimental, lyrique, a joué aussi un rôle absolument décisif. Vous connaissez tous les « We shall fight on the beaches, we shall fight in the streets, we'll never surrender ». Écoutez-le maintenant s'adresser aux Français, en français, en octobre 1940. Peut-on être plus généreux ? Peut-on être plus fraternel ? Je n'oublie pas, bien sûr, la tragédie de Mers el-Kébir où la flotte anglaise a détruit la flotte française au mouillage, incapable de se défendre de peur qu'elle ne tombe dans les Allemands. Mais ce jour-là, comme souvent, Churchill a su trouver les mots et les mettre au service de la grande cause.
Français. C'est moi, Churchill, qui vous parle. Pendant plus de 30 ans, dans la paix comme dans la guerre, j'ai marché avec vous et je marche encore avec vous aujourd'hui sur la vieille route. Cette nuit, je m'adresse à vous dans tous vos foyers, partout où le sort vous a conduit. Et je répète la prière qui entourait vos louis d'or. Dieu protège la France. Ici, chez nous, en Angleterre, sous le feu du Bosch, nous n'oublions jamais quel lien et quelle attache nous unissent à la France. Nous continuons à lutter de pied ferme et d'un cœur solide pour que la liberté soit rétablie en Europe, pour que les braves gens de tous les pays soient traités décemment et pour amener ainsi le triomphe de la cause qui nous a fait ensemble tirer l'épée. Parmi les Français, ceux qui se trouvent dans l'Empire colonial et ceux qui habitent la France, soi-disant inoccupée, peuvent sans doute, de temps à autre, trouver l'occasion d'agir utilement. Je n'entre pas dans les détails. Les oreilles ennemies nous écoutent. Les autres, Français, vers qui l'affection anglaise se porte d'un seul mouvement, parce qu'ils vivent sous la stricte discipline, l'oppression et l'espionnage des Boches, je leur dis, quand vous pensez de l'avenir, rappelez-vous les mots de ce grand Français que fut Gambetta. Il les prononça après 1870 à propos de l'avenir. Pensons-y toujours, n'en parlons jamais. Allons, bonne nuit. Dormez bien, rassemblez vos forces pour l'aube, car l'aube viendra, elle se lèvera brillante pour les braves, douce pour les fidèles qui auront souffert, glorieuse sur les tombeaux des héros. Vive la France! Et vive aussi le soulèvement des braves gens de tous les pays qui cherchent leur patrimoine perdu et marchent vers les temps meilleurs.
Voilà, je défie quiconque de me dire que ce texte n'est pas éblouissant. C'est donc en octobre 40 que Churchill s'adresse aux Français, à la radio, dans un français très bien construit, l'accent est particulier, mais c'est lui. Et jusqu'au bout, il aura partagé le plus de ce qu'il pouvait avec le général de Gaulle, même s'il lui a dit à plusieurs reprises « à choisir entre vous et le grand large », c'est-à-dire Roosevelt choisirait les États-Unis. Roosevelt ne supportait pas de Gaulle. Sans Churchill, de Gaulle n'aurait pas obtenu le même rôle et la France libre n'aurait pas eu les mêmes moyens. Il ne faut jamais l'oublier. Et c'est finalement assez récent, quelques décennies, 20, 25 ans peut-être, qu'il y ait une statue de Churchill qui s'érige dans Paris, à quelques mètres de celle du général de Gaulle. Ils sont chacun à un bout de l'avenue, c'est assez touchant. Un des écrivains que je préfère, donc j'ai parlé de Ernest Hemingway tout à l'heure, c'est Joseph Kessel. Je ne m'étendrai pas trop aujourd'hui sur lui parce que nous avons eu la chance de faire une émission qui lui était consacrée il y a quelques semaines avec Hubert Boukobza, que je salue, qui est un libraire merveilleux, qui tient une librairie qui ferme d'ailleurs bientôt, qui s'appelle La Rose de Java, dans Paris, rue Campagne Première. La Rose de Java, du nom d'un scénario de Joseph Kessel, pardon, du nom d'un manuscrit de Joseph Kessel, que celui-ci lui a donné au jeune Boukobza. Il avait 17-18 ans, il admirait Kessel, ils sont rencontrés, ils sont devenus amis. Et Kessel, qui était quelqu'un d'extrêmement fraternel et généreux, lui a donné ce manuscrit, qui a donné son nom à cette librairie, La Rose de Java. Il vous reste quelques jours pour y aller avant qu'elle ne ferme. C'est un endroit magnifique pour qui aime la littérature. Un endroit un peu hors du temps, poussiéreux, désordonné, mais tellement charmant et tenu par quelqu'un qui, depuis près de 40 ans, vit et fait vivre cette merveilleuse passion pour la littérature en général, pour Gary, pour tant d'autres, mais quand même surtout pour son grand œuvre, Joseph Kessel. L'œuvre de Kessel, c'est un peu comme avec Hemingway de Vieux et la Mer. La plus connue, c'est Le Lion. Pour moi, c'est loin d'être la meilleure. Il y a tellement d'autres choses. Il y a eu des reportages, il y a eu des romans. Il a réalisé les deux activités littéraires qui ne sont pas les mêmes, parfois même contradictoires. Souvent, un reportage où il apprenait, il avait la matière, et ensuite un livre. Ça a souvent été comme ça dans sa vie. Les Cavaliers, par exemple, le dernier de ses grands livres, Les Cavaliers, d'où un film avec Omar Sharif, Jack Palance, Les Cavaliers en Afghanistan, était suite à un reportage qu'il avait couvert là-bas, une grande visite. Quand il a découvert les trafiquants d'esclaves qui existaient encore dans les années 30, il en a tiré bien des livres. Il a connu Henri de Montfred, qu'il a poussé à écrire, qu'il avait aidé dans cette découverte. Il a écrit La Piste Fauve, puis Le Lion. Chaque fois, c'est un peu la même démarche. Il y a deux sortes de livres, mais tous ont un point commun. La fraternité, le goût de la découverte, le souffle, la générosité, l'amitié. Joseph Kessel, c'est vraiment un homme à chérir à tout prix, je crois, plus qu'Hemingway, qui est sans doute plus froid et plus égoïste. Alors un mot, un dernier donc sur Kessel. L'une des grandes œuvres de Kessel, on a un peu parlé la semaine dernière, enfin parlons, il y a quelques semaines, excusez-moi, avec Hubert Boukobza, son ami, c'est L'Armée des Ombres. Kessel, ayant été aviateur pendant la Première Guerre mondiale, voulait participer à la Seconde. Mais l'âge, les difficultés, bref, on lui refuse un poste de navigant. Et le général de Gaulle lui-même, qui aimait beaucoup l'œuvre de Kessel, lui dit « Faites autre chose, travaillez pour nous avec votre talent, l'écriture. » D'où, de résultat, Le Chant des Partisans, coécrit avec son ami, son neveu, Maurice Druon, le texte, la musique d'une musique russe existante, voilà, l'hymne de la résistance, et puis L'Armée des Ombres, fantastique roman paru pendant la guerre, dont 15 ou 20 ans plus tard, Jean-Pierre Melville tira un film sombre, pas du tout héroïque, pas du tout spectaculaire, avec des acteurs minimalistes, Ventura, Signoret, d'autres, L'Armée des Ombres.
À quelle organisation appartenez-vous?
Je ne vois pas de quoi vous voulez parler.
Vous savez ce que vous risquez.
Je ne veux pas courir.
Police! Vous êtes recherché par toutes les polices.
Faut en unifier le commandement, les entraîner.
Premier avion est pour vous.
Regardez-le, c'est lui qui vous a vendu.
Pour l'étrangler. Les dettes se paieront.
S'ils vous prennent, ils sont bien obligés de vous remplacer.
Supposez que vous êtes obligé de livrer vos amis.
Je suis sûr que mes camarades réussiront.
Votre mari, il est au courant de vos activités?
Absolument pas.
Je vais mourir. Et si je n'y crois pas jusqu'au dernier instant, jusqu'à la plus fine limite, je ne mourrai jamais.
Feuille !
L'Armée des Ombres, tout le monde connaît ce film. Certains ont oublié que l'auteur du livre dont il est adapté, c'est Joseph Kessel. Et dans l'Armée des Ombres, on se souvient sans doute de cette scène finale assez bouleversante. Simone Signoret marche sur un trottoir. Elle a été arrêtée par les Allemands, puis libérée, mais ils ont trouvé sur elle une photo de sa fille. C'est son seul point faible, donc en quelque sorte, ils la tiennent. Ses amis résistants ont peur que malgré le courage, la loyauté absolue de Simone Signoret, du personnage qu'elle interprète en tout cas, elle ne finisse par révéler des choses. Donc ils décident, Ventura lui-même et Paul Meurice, qui joue le chef de ce réseau, de l'abattre. Alors qu'ils tiennent à elle comme à une compagne, une sœur absolue. C'est la cruauté des choix qu'ont dû faire parfois certains résistants. Et cette scène où il s'apprête à l'abattre dans une avenue qui mène à l'étoile est un moment de cinéma assez spectaculaire par son intensité, même s'il ne s'y passe pas grand-chose. Abattre quelqu'un qu'on aime pour le protéger de lui-même et protéger les autres. C'était un dilemme affreux. L'Armée des Ombres, c'est d'après Kessel. La période de cette Deuxième Guerre mondiale, on ne peut pas dire que ce soit une période riante, on ne peut pas dire qu'on l'aime, mais elle a en revanche donné naissance à des œuvres. Avez-vous vu Le pianiste de Roman Polanski? Je suppose que oui. Władysław Spielmann, une histoire absolument vraie de ce pianiste de grand talent, de la radio de Varsovie, qui est juif, et qui ne fuit pas au début son pays alors qu'il pourrait le faire, puis qui est enfermé dans le ghetto, puis qui s'échappe du ghetto, se cache pendant des mois grâce à des amis dans Varsovie, perd tous les siens, ou presque, et finit par survivre. Le plus merveilleux étant qu'à l'issue de cette guerre et de cette tragédie épouvantable, il reprend sa place à la radio. Dans le film, vous vous souvenez de ce moment peut-être où il est découvert dans un repère par un officier allemand qui lui demande de jouer du piano. Il joue et l'Allemand, ébloui par son talent et sans doute épuisé par les tueries, non seulement ne l'emprisonne pas, ne l'abat pas, mais même le protège. Et c'est grâce à lui que finalement Spielmann survit. Quand Spielmann revient à la vie, retrouve les siens, pas sa famille, mais ses amis de la radio, très rapidement, il joue ce prélude numéro 20 de Chopin. Pensez que c'est lui, c'est son interprétation, ce vrai personnage de fiction joué par Adrian Brody, il a existé vraiment. Władysław Spielmann, c'est lui qui joue ici le prélude numéro 20 de Chopin et ça prend encore plus d'émotion.
Thank you.
Le prélude numéro 20 de Chopin, interprété ici par Władysław Szpilman, le héros du film de Polanski, Le Pianiste. Peut-on imaginer cet homme ayant traversé tant d'horreurs, ayant vu la mort, la souffrance, des choses épouvantables s'abattre autour de lui, l'angoisse, la peur, la solitude, la disparition de sa famille? Peut-on imaginer l'émotion qui pouvait étreindre cet homme quand il a pu, après tant de laideur, retrouver la beauté absolue, c'est-à-dire l'art? Un pianiste, il a repris sa place à la radio de Varsovie. La version, j'insiste, mais la version qu'on vient d'entendre, c'est lui, Szpilman, qui joue tant d'années après ce morceau qui a dû l'aider à tenir, j'imagine, durant ces longues années épouvantables. Les Allemands ont fait aussi quelques films sur cette période. On est forcément moins enclin à écouter leur version, leur vision des choses. Il a fallu des décennies avant qu'ils ne le fassent. Il y a quelques années, il y a eu une série assez remarquable qui s'appelait bêtement en français, si j'ose dire, War, mais qui en allemand s'appelait tout à fait autrement Unsere Mutter, Unsere Väter, qui voulait dire nos mères, nos pères. C'est l'histoire de plusieurs amis, deux frères, un troisième, un ami et deux jeunes femmes qui sont des amis dans l'Allemagne de 39-40 et qui vont être entraînés, comme tant d'autres, dans la tourmente, la tornade, qui ne sont pas des militants nazis, qui sont des Allemands moyens, contraints parfois à commettre des choses qu'ils ne veulent pas. Une jeune fille est infirmière, deux partent dans l'armée, le troisième, qui est un juif, se sort par miracle des différents guépiers. La jeune femme qui est amoureuse en secret d'un des héros est une chanteuse qui finit par, elle, avoir une carrière sous le régime nazi, ce qui lui vaut un peu l'opprobre de ses amis. Paradoxalement, c'est elle qui, à la fin de la guerre, est décapitée pour une traîtrise qu'elle n'a pas commise, si ce n'est protéger peut-être quelques amis. Dans cette série, donc quelques épisodes que je vous recommande vraiment, Unsere Mutter, Unsere Väter, en français ou en anglais, War, il y a cette jolie petite chanson, c'est rare qu'on entende de l'allemand chanter, à part dans certains textes lyriques. Ça s'appelle Meine kleine Herz, mon petit cœur, et c'est l'un des personnages qui chante ça à la radio au moment de son éphémère gloire avant que la hache du bourreau ne s'abatte sur elle.
Mein kleines Herz schlägt nur für dich, zählt die Stunden, bis du wiederkehrst, dann umarmst du mich. Mein kleines Herz träumt schon vom Glück, in der Heimat wartet es auf dich und weiß, du kehrst bald zurück. Liebe,
une chanson extraite de cette mini-série allemande connue en français sous le nom War, qui doit pouvoir se trouver, je l'espère, j'en suis pas sûr, sur internet, chercher, ça vaut la peine. C'est la vision allemande de la guerre et des 4 ou 5 jeunes gens emmenés dans une tourmente dont évidemment ils ne voulaient pas. J'ai la chance aujourd'hui dans les neiges du Kilimandjaro, la chance, enfin le mot est malvenu, la chance de ne pas avoir d'invité. Non, c'est bien d'avoir des invités, mais la chance de pouvoir vous parler égoïstement, de narcissiquement peut-être, des choses qui m'ont touché, dont j'espère que parfois nous les partageons en matière de cinéma, en matière de littérature, en matière d'art en général, en matière aussi d'histoire et de politique, on a parlé de Churchill tout à l'heure. Maintenant, j'aimerais qu'on parle d'un film. Qui n'aime pas ce film? Dites-le-moi, appelez-moi, qui n'aime pas Le Cercle des Poètes Disparus? 1989, un film de Peter Weir. Si vous ne le connaissez pas, voici de quoi il s'agit. C'est une école très traditionnelle de la Nouvelle-Angleterre, dans le Vermont pour être très précis. Une école conformiste pour jeunes gens de bonne famille, d'ailleurs une bonne école, disons pas le contraire. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de choses choquantes. Mais il y a évidemment une chape de conformisme et un professeur un peu surprenant, professeur de littérature anglaise, M. Keating, va rejoindre cette école. Ses procédés, ses méthodes sont différents. Ses choix littéraires ne sont pas les mêmes. Il est contre, non pas le classicisme en tant que tel, mais il est contre, encore une fois, le conformisme et le refus d'imaginer, le refus d'exprimer profondément ce que l'on est. Au début, les élèves sont réticents et lentement, car eux-mêmes sont dans le moule du système, et lentement, petit à petit, sous l'influence de cet homme à la fois charismatique et très doux, ils prennent conscience qu'ils peuvent avoir une propre voie, une manière différente de voir la littérature et l'existence. Ils fondent donc ce cercle des poètes disparus en hommage à d'autres qu'il avait fait des décennies plus tôt. Malheureusement, la direction de l'école va le prendre assez mal, je passe les détails, et Keating, le professeur, qui leur enseignait à voir la vie différemment, Keating donc est renvoyé. La scène finale du film est un grand moment d'émotion. Il s'en va. Il leur avait appris auparavant à voir la vie différemment avec un exemple très physique. Il était monté sur un bureau en disant « Voyez-vous, de là-haut, je ne vois pas la pièce, donc pas le monde de la même manière. » Au moment où il est renvoyé, où il sort de la classe, les élèves sont déçus, accablés, mais aussi un peu lâches, n'osent pas dire quoi que ce soit. L'autorité de l'école s'abat sur eux. Et puis, l'un d'eux se transcende, monte sur la table et lui dit « Oh capitaine, mon capitaine, 2, 3, 4, 5 autres le font, pas tous. » Mais au dernier moment, au moment où il se retourne, il se dit « Je n'ai pas fait ça pour rien. » Il s'est trouvé des jeunes gens pour affronter les lois, affronter le conformisme, pour lui dire que ce que vous nous avez transmis, à c'est-à-dire voir le monde de notre propre manière, nous l'avons entendu, nous sommes prêts à le faire maintenant pour rendre hommage et en général dans la vie. C'est très touchant à tout point de vue, visuellement et sur le sens des choses. L'extrait que je vous propose d'écouter, c'est un moment où ils comprennent que ce professeur est un petit peu différent, ils lui disent des choses assez simples et il les renvoie à la vérité, il leur fait prendre conscience, tout bêtement, de l'inexorable fuite du temps qui va, un jour ou l'autre, les rejoindre.
Cueille dès maintenant les fleurs de la vie, car la mort est si pressée que le frêle bouton qui s'ouvre aujourd'hui aura bientôt trépassé.
Merci, Monsieur Pitts. Cueille dès maintenant les fleurs de la vie. En latin, on l'exprimait comme ceci. Carpe diem. Qui peut traduire ces mots?
Profite du jour présent.
Bravo, Monsieur...
Mix.
Mix. Un nom digne de la robotique ménagère. Bzz. Cueille les fleurs. C'est-à-dire profite du jour présent. Pourquoi le poète écrit-il cela?
Parce qu'il est en retard?
Non! Ding! Merci d'avoir joué avec nous. Parce qu'un jour, les vers vont nous manger. Parce que, croyez-moi, chacun d'entre nous ici, un jour, s'arrêtera de respirer, deviendra tout froid et mourra. Veuillez vous approcher, messieurs, et contempler tous ces visages surgis du passé. Vous les avez bien souvent entreaperçus ici, sans vraiment les regarder. Ils ne sont guère différents de vous, n'est-ce pas? Les mêmes cheveux, les mêmes hormones qui vous titillent aussi. Invincibles, autant que vous croyez l'être. Le monde leur appartient. Ils sont persuadés d'avoir un avenir grandiose, tout comme un bon nombre d'entre vous. L'espoir brille dans leurs yeux, comme vous. Ont-ils attendu qu'il soit trop tard pour réaliser ne serait-ce qu'une miette de leur grand rêve? Parce que, messieurs, figurez-vous qu'aujourd'hui, tous ces garçons fertilisent les chrysanthèmes. Mais si vous tendez l'oreille, vous les entendrez murmurer un conseil. Écoutez-les. Allez, penchez-vous plus près. Vous entendez? Carpe. Vous entendez? Jour présent, mes amis, que votre vie soit extraordinaire.
Voilà, c'est un extrait du cercle des poètes disparus. J'oubliais de vous rappeler, je ne vous l'apprends pas, que L'acteur qui joue ce rôle du professeur Keating, personnage merveilleux, c'est Robin Williams. Trop souvent, quand on a des rôles un peu burlesques, dont on oublie quel vaste talent il avait. Voilà, si vous n'avez jamais vu, profitez-en, faites-le, ça se trouve. Le cercle des poètes disparus, c'est Peter Weir en 1989. Vous l'avez vu dans ce film, un thème simple, évidemment, bien sûr, universel, la fuite du temps. Un peu comme l'ami Perdican au début de l'émission qui disait « Je me retourne sur le bord de ma tombe et je me dis « J'ai vécu ». J'ai aimé, c'est moi, et non pas un être imaginaire créé par mon orgueil et mon ennui. Chaque fois la même chose, en fin de compte, tous les auteurs, tous les écrivains, tout le monde s'efforce de résister à la fuite du temps et à rendre les jours, le temps qui nous reste, à le rendre beau, à le rendre utile, à le rendre grand, à ne le rendre pas vide. C'est le but, je crois, enfin, ne faisons pas de choses trop compliquées, mais c'est quand même le but de l'art. À Barry Lyndon, voilà quelque chose d'assez formidable. Barry Lyndon de Kubrick, un film extrêmement long, je l'ai essayé de le montrer à des jeunes gens qui trouvaient que c'était trop long, que le rythme n'était plus adapté. Bon, admettons, j'ai envie de leur dire, faites un effort les garçons et les jeunes filles, ça vaut la peine. Barry Lyndon, peut-être le chef-d'œuvre de Kubrick, filmé en lumière naturelle, avec les chandelles un peu à la Quentin La Tour, ce qui fait qu'il a pris du temps, beaucoup de temps, il voulait le vrai soleil, il n'y a pas de trucage, ça a pris un temps fou. Ça raconte l'ascension et la chute de Redmond Barry, un Irlandais joué par Ryan O'Neill, qui est un assez beau garçon, qui se bat en duel au début pour des raisons amoureuses, qui est obligé de fuir, et puis lentement, qui a une ascension due à son charme, qui l'amène à épouser Lady Lyndon, dont le fils, hélas, haïra ce prétendant grossier, enfin, à ses yeux. Lyndon, un peu comme les héros dont nous parlions tout à l'heure de l'homme qui veut être roi, qui sont des gens finalement assez cupides, mais qui se rachètent à la fin par un sacrifice. Lyndon vit la même chose. Vous vous souvenez de ce moment du film où le fils le provoque en duel? Lyndon a l'avantage, il peut tirer, l'autre ayant raté son premier tir, mais Lyndon décide, Barry Lyndon, Redmond Barry en réalité, décide de tirer par terre et épargner le fils. Hélas, ce geste de noblesse ne sera pas récompensé, car le fils a à nouveau une chance, et là, il touche Barry qui sera amputé de la jambe. Cruel, parce que parfois le désintéressement, le courage, la noblesse d'âme ne payent pas. Dans ce film, beaucoup de musiques qui ont été redécouvertes grâce à Kubrick. Certains lui ont fait le reproche que ces musiques soient absolument inadaptées, qu'il y avait des anachronismes absurdes. Mais il a répondu très bien, je ne prétends pas que ces morceaux calent à l'époque, sont des morceaux qui me touchent, comme la sarabande de Handel, et comme, qui intervient beaucoup plus tard, puisque ça se passe au 18e, le trio de Schubert, qui est un des morceaux préférés des Français, donc je ne cherche pas à faire œuvre d'originalité en vous le faisant à nouveau entendre. Thank you. Trio de Schubert avec entre autres les frères Capuçon, ça figure dans la bande originale du film de Stanley Kubrick, Barry Lyndon. Nous avons parlé de littérature, nous avons parlé beaucoup, un peu, de théâtre. Parlons aussi de cinéma depuis un moment. Ce film relie le cinéma et la littérature que depuis toujours j'aime et j'encourage à découvrir. J'ai eu la chance de faire une série de films donc, sur les écrivains de l'aventure pour Arte il y a longtemps. Parmi ceux-là, un personnage assez étonnant, Joseph Conrad. Pourquoi est-il étonnant ? Parce que d'abord, c'est un Polonais. Konrad Korzeniowski, c'est un Polonais de la petite noblesse polonaise, et qui est devenu un marin de la marine marchande un peu partout dans le monde, puis, au nom de la Grande-Bretagne, un marin britannique, puis un auteur britannique. Il a donc écrit dans sa langue, et cette langue nouvelle qui n'est pas la sienne, c'est un Polonais, il a écrit en anglais des chefs-d'œuvre. Alors pourquoi est-ce un peu particulier, Conrad ? Parce que c'est un auteur d'aventure, bien sûr, mais il n'est pas aussi fraternel, aussi chaleureux que Joseph Kessel, il n'est pas aussi viril et directement aventureux que Ernest Hemingway. Sa vie, bien que ce soit un officier de marine, sa vie semble un peu monotone. Il y a chez lui, dans son aspect physique, aussi quelque chose d'un petit peu mesquin, on dirait presque une sorte d'employé aux écritures, une sorte de comptable. Non, c'est un véritable auteur, Joseph Conrad, et il a écrit de nombreux livres. L'un de ceux que je vous recommande, c'est Lord Jim, l'histoire d'un marin qui, un jour, commet une terrible erreur, une lâcheté, et s'enfuit d'un navire en laissant des musulmans, des pèlerins à bord du bateau, en se délaissant, se désintéressant de leur sort. Le miracle fait que finalement le bateau ne coule pas pendant ce typhon et que donc les pèlerins sont sauvés. Mais toute sa vie, Lord Jim aura l'impression qu'il avait commis un péché, une trahison. Toute sa vie, il essaiera d'expier, c'était une faute initiale. Un livre sur la rédemption et le péché, c'est remarquable. Il y a aussi La Folie à la meilleure, il y a aussi Le Nègre du Narcisse. Joseph Conrad a donc écrit beaucoup, toujours autour de la marine, la navigation. Un de ses livres marquants, c'est Au cœur des ténèbres. Au cœur des ténèbres, pourquoi en parler maintenant ? Parce que c'est l'histoire d'un steamer qui remonte lentement une rivière en Afrique, au Congo, noir à l'époque, dominé par les Belges, avec beaucoup de choses assez cruelles qui s'y passaient. Des années plus tard, Francis Ford Coppola a utilisé ce roman de Conrad. Il a transposé la scène dans le Vietnam des temps modernes, à l'époque de la guerre du Vietnam, avec un officier qui part à la recherche de Kurtz, qui est un ancien officier des forces spéciales qui est devenu fou, qu'il faut contrôler et, s'il le faut, assassiner. Au cœur des ténèbres, c'est Apocalypse Now en français et c'est Heart of Darkness en anglais. Ce sont bien sûr les ténèbres physiques, on y voit de moins en moins, la jungle se referme, et aussi les ténèbres morales qui amènent des gens à devenir fous, fous de violence. C'est le cas de ce fameux Kurtz qu'on cherche dans Apocalypse Now.
You've heard of Colonel Walter E. Kurtz? Your mission is to terminate the colonel's command.
Terminate.
Terminate with extreme prejudice.
I love the smell of napalm in the morning.
Very obviously, he has gone insane.
This is the end, my only friend, the end.
Are you an assassin?
I'm a soldier.
La charge des Valkyries et la voix de Darren Brando qui murmure à la fin « Oh là, l'horreur !» Une scène incroyable dont il a été révélé après que Brando avait complètement improvisé. D'ailleurs, dans ce film, Coppola a souffert le martyr. Sa femme en a tiré un documentaire, ce qu'on appelle un making-of, absolument incroyable, qu'elle a appelé « Au cœur des ténèbres » également, pas facile à trouver, mais qui est fantastique, qui montre comment un créateur, car un réalisateur de cette ampleur est un créateur, est confronté à des difficultés et aux affres, à la fois de la création, aux affres matérielles. Tout va mal sur ce plateau de Apocalypse Now. Le premier comédien choisi pour interpréter le rôle de l'officier disparaît, enfin une crise cardiaque, c'est fait Martin Sheen qui revient plus tard. Le plateau est détruit par un typhon, les hélicoptères que leur prêtent les Philippins, on leur reprend. Marlon Brando ne connaît pas son texte, n'a même pas le livre qu'on lui demande de lire. Enfin, c'est un cauchemar sans nom, il y a même question qu'il hypothèque sa maison. Il est prêt à revenir à faire des publicités, on le voit parler à sa femme Coppola pour dire « je crois que ma carrière est finie ». Ça n'a pas été le cas du tout, donc en trois temps, le livre de Joseph Conrad à découvrir, le documentaire éventuellement de la femme de Coppola, et puis le Apocalypse Now. On est presque au bout de cette émission un peu particulière qui avait l'outrecuidance de prétendre vous présenter égoïstement des choses qui me plaisent, dont peut-être certaines vous ont séduites aussi si vous ne les connaissiez pas. Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire dans la vie que de partager ses goûts et d'amener des gens à s'intéresser à autre chose que leur vie quotidienne? Il n'y a rien de mieux, c'est merveilleux. Nous avons commencé l'émission par Cyrano de Bergerac. Il me semble donc convenable terminé par lui. Je vous rappelle ce qui se passe dans cette pièce que vous connaissez tous. À la fin, enfin, Roxane va comprendre, alors que Cyrano va mourir, que c'est lui en réalité, que l'esprit de l'homme qu'elle aimait n'était pas celui de Neuvillette, c'est le sien. C'est Cyrano qui dictait les mots. Enfin, il avoue après tant d'années, mais malheureusement, il va mourir. C'est la fin de Cyrano.
Elle vient. Je me sens déjà botté de marbre. Ganté de plomb. Oh. Mais puisqu'elle est en chemin, j'irai à sa rencontre. Et l'épée à la main. Que dites-vous? C'est inutile. Je le sais. Mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès, non, non. C'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Qu'est-ce que c'est que tout cela? Vous êtes mille. Ah, je vous reconnais. Tous mes vieux ennemis. Le mensonge, les lâchetés, les compromis. Je sais bien qu'à la fin, vous me mettrez à bas, n'importe. Je me bats, je me bats, je me bats. Oh, oui. Vous m'arrachez tout. Le laurier et la rose, arrachés. Il y a malgré vous quelque chose que j'emporte. Et ce soir, quand j'entrerai chez Dieu, mon salut balayera largement le seuil bleu. Quelque chose que sans un pli, sans une tache, j'emporte malgré vous. Et c'est...
Finissons l'émission là-dessus. Merci à Rostand, à Rapneau, à Depardieu. Mourir en emmenant ce panache, eh bien, je crois que c'est ce que j'aimerais faire aussi. Dans 15 jours, on se retrouvera pour parler, ça sera l'anniversaire quelques jours près, d'un moment épique et tragique à la fois, la bataille de Dien Bien Phu. Merci à tous. Bon week-end sur Radio Courtoisie.
Vous venez d'entendre Les Neiges du Kilimandjaro, dirigé par Marc Bessou, diffusé en direct sur Radio Courtoisie samedi 18 avril 2026 de 18h à 19h30 et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.